France Musique.
You got it. Got the white. Got the white. Got the white.
Zeitmöglich. Zeitmöglich. Kommen die zu spät. Kommen die zu spät. Kommen die zu spät.
À pleine voix, ce samedi s'installe dans quelques espaces où la voix résonne, où la voix rayonne, et plus précisément à la basilique Saint-Marc à Venise, dont l'acoustique tout à fait exceptionnelle avec ses deux tribunes se faisant face et où sont installés deux orgues et deux chœurs, permet de jouer avec des effets d'écho. Des compositeurs comme Andrea et Giovanni Gabrielli au XVIe siècle, puis Claudio Monteverdi, qui fut maître de chapelle à San Marco, ont savamment exploité cette acoustique avec des œuvres polychorales comme les Vêpres de la Vierge de 1610 de Monteverdi. On écoute tout de suite le début, l'invitoire. Claudio Monteverdi, Vespro della Beata Vergine et Vêpres de la Vierge par le Concerto Italiano dirigé par Rinaldo Alessandrini, un extrait d'un très bel album intitulé Vêpres solennelles pour la fête de Saint-Marc. Cet après-midi, donc sur France Musique, dans À pleine voix, on vous fait entendre l'espace investi par les compositeurs de la Renaissance, comme Gabrielli, Monteverdi un peu plus tard, depuis la basilique Saint-Marc à Venise, avec un autre compositeur vénitien bien plus proche de nous, puisqu'il s'agit de Luigi Nono. Il nous parle de la musique qui résonne peut-être à travers les pierres blanches et rouges de Venise.
Nous pouvons imaginer que Gabrielli a eu, pas seulement lui, mais il a eu sûrement des grands troubles avec l'acoustique et l'utilisation et l'organisation de la musique de lui. Parce que beaucoup de fois, j'avais vraiment pour habitude dans l'église de San Marco pour écouter. Écouter les bruits, écouter les différents, les petites voix, et aussi pour voir les sons.
c'est jamais pareil. Quand la marée est haute, oui, l'eau sort entre les pierres, on marche un petit peu dans l'eau. Et lorsque c'est l'été, le son est sec.
Bien sûr. Je trouve que Saint-Marc, pour moi, c'est aussi une salle merveilleuse comme la salle de l'IRCAM, tout à fait autre. J'ai un grand rêve, vraiment, de pouvoir avoir la possibilité
d'habiter Saint-Marc, avec la musique. D'habiter avec la musique.
Oui, exactement, d'habiter avec une tentative de musique Saint-Marc.
Stravinsky avait donné son hommage à Gesualdo, mais c'était une formation oui, traditionnelle.
Tout à fait, parce qu'il a fait aussi le Canticum Sacrum, oui, mais il a placé l'orchestre, oui, le chœur sur, par terre, alors sans connaissance vraiment de l'Église. Et c'était tout une consommation de l'acoustique de Saint-Marc, tout à fait, je dirais, habitudinaire et industrialisée. Oui.
Yeah.
Giovanni Gabrielli, un extrait des Sacrae Symphoniae, immense recueil d'œuvres chorales de Gabrielli, composé pour San Marco à Venise, la basilique Saint-Marc. Ici, c'était un extrait du premier recueil, publié en 1597, interprété par la Fenice, le chœur de chambre de Namur, dirigé par Jean Tuberi. On écoutait un Domine Dominus Noster à 8 voix, en 2 chœurs, justement, pour cette basilique aux 2 tribunes qui se font face et où s'installent, justement, les 2 chœurs. On retrouve le compositeur Luigi Nono. En 1988, il est au micro de la productrice Martine Cadieux, qui était une grande amie de Nono.
Gabrielli, alors, aussi dans les madrigales, surtout dans la musique sacre, sacre symphonie, il y a une chose que je trouve extraordinaire. C'est écrit « à cantar ou à sonar ».
Ah oui.
Alors, c'est dit que ce n'est pas décidé. C'est que tout doit être toutes les voix ou tout l'instrument. Alors, peut-être une montée à 12, peut-être 11 instruments et une voix. Ou 4 instruments, 4 voix, 4 instruments et 4 voix. Mm-hmm. Et après, il y a cette chose extraordinaire dans les plus chœurs, qu'il y a vraiment, il vient à utiliser l'espace acoustique dans la composition des différents chœurs. Alors, par exemple, il y a un madrigal Dolce Nemica Mia, qui c'est diatonique. Il y a les 3 voix principales qui sont des soprans et un ténor. Les 4 voix en bas sont alto, des ténors en bas. C'est-à-dire que lui, il vient à utiliser l'espace de la partition qui après vient à être transporté dans l'espace architectonique.
Mise en musique par l'un des maîtres de la musique espagnole à la Renaissance, Cristobal de Morales, Les Lamentations de Jérémie, c'est la troisième leçon du vendredi saint, Cof Vocabi, par le Brabant Ensemble, dirigé par Stephen Rice, un disque du label de Jordi Savall, Hyperion. Cette superbe polyphonie qui nous renvoie donc à cette pensée de l'espace explorée cet après-midi dans À pleine voix. On va poursuivre en écoutant Claudio Monteverdi, un autre recueil de Monteverdi, publié cette fois en 1641, Selva Morales et Et Spirituale, qui regroupe d'autres pièces composées pour l'office religieux de la basilique Saint-Marc à Venise. Et vous écoutez tout de suite donc le psaume 111, Beatus Vir Primo, le concerto italiano, toujours dirigé par Rinaldo Alessandrini.
Beatus, 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 be
Autre chef-d'œuvre de Claudio Monteverdi, extrait de ce recueil Selva Morale et Spirituale, les composés pour l'office religieux de la basilique Saint-Marc à Venise. Vous écoutiez le psaume 111, Beatus Vir Primo, par le Concerto Italiano, dirigé par Rinaldo Alessandrini. On va retrouver tout de suite la voix du compositeur vénitien Luigi Nono, dont les œuvres sont marquées par l'idée de l'espace, notamment grâce au procédé électroacoustique qu'il a développé très tôt en Italie, au début des années 1950, notamment au service d'œuvres très engagées politiquement. À partir des années 80, Nono va ajouter à la question de l'espace la dimension du direct et de l'aléatoire, à la question du son, donc la live électronique, selon son expression, qui mobilise donc à la fois des jeux autour de l'aléatoire, mais aussi toute une pensée de l'espace. Ce sera d'ailleurs le principe de sa grande œuvre, Prométhéo, commencée en 1970, achevée quelques dix années plus tard, une œuvre saisissante qui fait vivre une expérience absolument inouïe de l'écoute. Ce Prométhéo qui n'est ni un opéra, ni même une action scénique, mais que Nono a intitulé « La tragédie de l'écoute »,« Tragedia dell'ascolto », en référence aux penseurs qui se sont passionnés, emparés de la question de l'écoute de l'oreille, comme Emmanuel Kant, qui écrivait que les oreilles étaient la clé de la communication humaine, les oreilles étant aussi, dans la tradition juive, l'ouverture sur la parole de Dieu. En 1987, au micro de la compositrice Michèle Reverdy, Nono parle de la live électronique art acoustique dans le temps réel.
Une des différentes possibilités que l'informatique d'aujourd'hui nous donne. La live électronique, c'est l'étude d'un signal acoustique dans le temps réel, analysé et transformé et dynamisé dans l'espace. L'espace, il vient être pour nous et pour moi, un component fondamental de la musique, comme dans Giovanni Andrea Gabrieli, comme dans Morales, ou comme dans la grande école espagnole, ou dans Stable, ou Thalys. C'est-à-dire que l'espace, ce n'est pas une chose passive. L'espace, comme ici, le palais est déchaillot maintenant, il nous donne des problèmes, des modifications des programmes de live électronique que nous avons fait dans les autres exécutions. Parce que cet espace a des spécificités typiques d'ici. L'espace, pas seulement le dynamisme, il fait vivre le son, il fait voyager le son, il vient à réfléchir comme Venise, où il y a les murs, la pierre, l'eau, ou les différentes dynamisations dans la ville, pour laquelle, par exemple, les cloches ou les bruits des bateaux, tout cela, il vient à réverbérer avec des échos, avec des transformations comme continuer. La chose fondamentale que j'étudie exactement aussi pour San Lorenzo, pour la Prométhée.
Pour votre opéra Prométhée, oui.
La musique, ça a été fait pas au
niveau de la Terre.
Au niveau de la Terre, mais on peut dire dans le médium, dans l'espace.
Oui.
Alors, haut dans le médium, c'était les instruments avant placés plus haut. L'instrument oui. corde un peu plus bas et la corde un peu plus bas. Et cela répond à une possibilité acoustique de l'Église. J'ai lu maintenant cette livre sur la cathédrale de Chartres.
Oui.
Et comme c'est construit avec aussi le respect avec les intervalles musicaux.
Oui.
Pas seulement avec cette typique chose de la pyramide où il y a une fois à l'an que le soleil, à travers la fenêtre, vient à illuminer une chose d'or. Alors, c'est vrai que les grands constructeurs de la cathédrale de l'Église ils ont été aussi des grands acoustique parce qu'il dominait pas seulement la matière architectonale,
mais l'espace.
Mais l'espace, et aussi il connaissait tout cette mystérieuse pensée et des relations, pas seulement liées à la Terre, mais relations avec l'astronomie, avec la cosmologie. Alors c'était tout une pensée tout à fait extrêmement complexe.
Thank you.
C'était un extrait du Canto Sospeso de Luigi Nono, cette cantate pour soprano, alto, ténor, chœur mixte et orchestre, créée en 1956. C'était Claudia Wabado qui dirigeait l'orchestre de la Philharmonie de Berlin et les chœurs de la radio de Berlin, dans cet enregistrement également avec les solistes Barbara Bonnet, Suzanne Otto et Marek Torzewski. Wabado a été très proche de Nono, ils étaient d'ailleurs tous les deux très engagés à gauche, ils ont mené de nombreuses actions militantes. Le chef d'orchestre considérait Il Canto Sospeso comme un chef-d'œuvre et Wabado créera aussi à Venise une des autres œuvres marquantes de Nono, Prométhée, cette immense fresque musicale et sonore créée donc en 1984 dans l'église San Lorenzo à Venise. Une œuvre que Nono a intitulée donc La tragédie de l'écoute, dont il va nous parler, c'était au micro de la compositrice Michèle Reverdy en 1984. Et puis on l'écoutera tout juste après s'entretenir avec la journaliste Françoise Malétra.
Il y a une grande question sur le silence dans différentes cultures. Le silence, ce n'est pas le vide. Pour moi, le silence, c'est un moment plein de voix, de mémoires, d'échos, de questions avec soi-même, des questions avec les autres. Le silence des yeux, le silence de toucher aussi physiquement, le silence de garder, d'écouter, le silence des pensées, de réfléchir, de la méditation. Il y a beaucoup de diversité aussi dans le silence, parce que c'est un moment décisionnel dans la vie et pas seulement dans la vie.
Mais qu'est-ce qui vous a fait venir de plus en plus à une musique beaucoup plus contemplative ?
Ce n'est pas une question de musique méditative, c'est le silence de la subversion, comme il dit Edmond Chabès. Il y a le silence qui se vient opposer à les bruits violents. Il y a alors le silence des pensées contre la violence autoritaire. Il y a pas seulement le silence, mais il y a presque l'inaudibilité. C'est toujours une grande fascination pour moi de vivre, d'écouter ou de découvrir les limites entre l'audible et l'inaudible. Alors là, il y a des articulations incroyables pour l'esprit et pour l'écoute, exactement comme dans le spectre des couleurs. Alors, ce n'est pas une méditation, c'est la façon aussi d'écouter et de réfléchir. Beaucoup de fois, on écoute très mal ou très peu. Il y a cette tendance à vouloir écouter soi-même dans les autres. Le silence est aussi pour écouter l'autre. L'autre qui est en dehors de nous et l'autre qui est aussi en nous.
Pourquoi n'avoir pas fait du Prométhée, sous-titré « Tragédie de l'écoute », une action scénique, comme l'avait été Intolleranza en 1960 ou Al Gran Sole e Carico d'Amore en 1974?
la nécessité d'écouter. Dans une époque dans laquelle l'écoute c'est très faible. On a encore une fois découvert Schopenhauer et le problème de la musique et de l'écoute de la musique. On a découvert d'une autre façon Schoenberg et tout un autre côté de les pensées hébraïques. Écouter. On trouve dans les Prométhées, il y a vraiment comme une espèce d'ostinato ou de leitmotiv, la parole ascolte. Ascolte. C'est une parole aussi d'une prière hébraïque, Shema Israël. Ascolte Israël. C'est tout à fait un autre concept que le concept de je crois. Ascolte, écouter, ça vient vraiment à donner une autre possibilité humaine aussi. Le Prométhée con Cacciari l'a inventé et recréé, c'est vraiment une tragédie. Il y a la tragédie de la vie d'aujourd'hui, de cette nécessité de transformation continue, de trouver des choses et les quitter, trouver quitter. Cette continue façon de tomber amoureuse de quelque chose, et de découvrir, de tomber amoureuse encore une fois. Et je dis cela comme métaphore. Mais aussi dans un sens humain. Et de l'ascolte, pourquoi c'est 2h30 et il y a autrement une difficulté à écouter cela. Il y a des moments où même notre oreille, comme maintenant, à plus de 8 heures de répétition, l'oreille de moi, c'est presque incapable à ouïr. Donc il y a vraiment un blocage. Il y a la difficulté. Il y a le problème de l'écoute.
Pourquoi dites-vous que Prométhée est une tragédie de l'écoute?
La tragédie de l'écoute, nous écoutons les sons, les paroles imposées de façon autoritaire par les mass media, ou nous écoutons aussi les infinis bruits, et sons et voix qu'il y a dans la nature, presque inaudibles. Les sonorités, ou les sons, ou les paroles, ou les regards, beaucoup de fois, ils sont supprimés ou comprimés par la violence physique ou la violence rhétorique de beaucoup de paroles.
C'est aussi la raison du dispositif tout à fait étonnant. Le public est installé au centre, les musiciens, les instrumentistes, tout autour de la salle, sur 2 étages de galerie. Ceci veut dire aussi qu'à la fin de la représentation, il a pu se passer que tout ceci déclenche l'imagination de chacun, que la partition que nous aurons entendue ne soit plus du tout la vôtre.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. La partition, c'est un matériel du début. L'élément composant pour moi, c'est l'espace. C'est la diversité, la chose que j'appelle la dramaturgie acoustique. Différentes projections, différentes élaborations avec les live électroniques de l'Institut de Freiburg, différentes possibilités de s'éloigner, d'arriver, de croiser, encore une fois. Le croisement, c'est fondamental pour moi. Croisement de différents types de matériel et de qualité du son, qualité et matériel instrumental, qualité et matériel de voix humaine et qualité d'utilisation du micro, qui c'est aussi un grand instrument, et la grande qualité de live électronique. Sans cette ritualité religieuse dans les concerts de type traditionnel. L'espace, c'est un élément de la composition de grande importance, comme il y avait dans l'école vénitienne, dans la grande école espagnole, dans la grande école anglaise, et aussi dans la grande école allemande de Bach ou de Schütz. Et là, chacun qui vient à écouter, il est aussi errant entre une multiplicité de sons, et lui-même, il vient à capturer,
Palais des Chaillots, c'est un espace extraordinaire. Aussi, sur le plan visuel, c'est extrêmement beau à voir avec une lumière particulière. Et l'espace des Palais des Chaillots, il donne à nous des nouveaux problèmes à résoudre, des problèmes acoustiques. Toujours, nous devons étudier, comprendre l'espace et modifier des programmes, modifier les degrés dynamiques, même la position des haut-parleurs.
Thank you.
Vous écoutiez un extrait de Prometteo, tragédie de l'écoute, de Luigi Nono, dans cet enregistrement de 2003, la Südwestrundfunk de Freiburg, une production du studio Heinrich Strobel, dont Nono avait été directeur, dans une réalisation d'André Richard, avec deux chefs d'orchestre conduisant les solistes, le chœur de solistes de Freiburg, l'ensemble Recherche, et puis aussi des solistes d'orchestre de Freiburg. Il s'agissait de Peter Hirsch et de Kwame Ryan. Je vous invite d'ailleurs à venir sur la page internet d'À pleine voix pour admirer les dispositifs scéniques de ce Prometteo, trouver aussi de la documentation, et puis bien sûr sur la page on peut réécouter, podcaster ou nous écrire. Mais pour l'heure, c'est la fin d'À pleine voix qui a été mixée aujourd'hui par Claude Niort, une émission réalisée comme chaque semaine par Christine Amado avec la collaboration artistique de Françoise Monteil. La semaine prochaine, rendez-vous avec Thérèse Sédel, une grande dame qui nous parlera de son agence artistique, une agence de voix qui en compte de bien belles, des voix confirmées comme celle de Laurent Naouri, de Ludovic Tézier, de Karine Dehay ou de Mireille Delinche, ou encore des voix jeunes et prometteuses comme celle de Vanina Santoni ou de Philippe Estève. C'est samedi en 8 sur France Musique.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.